voix nue. Cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Bruno Dumont. Ce soir, faire trembler les corps autrement.
Bonsoir Bruno Dumont.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'il s'est passé chez vous à partir de 2014 ?
Ce qui s'est passé, une forme de, sûrement, de lassitude dans le genre dans lequel je me trouvais. J'ai l'impression que Hors Satan avait été au bout, quoi. Au bout du chemin que j'avais pris et je ne me voyais pas remettre le couvert, quoi, en disant mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc,
Vous avez fait Camille Claudel 1915 juste après ?
Oui, mais Camille Claudel, c'était un autre film, c'était autre chose. C'était la première fois que j'adapte des lettres. Donc c'était une façon de répondre à ça, à savoir je suis arrivé au bout. Donc je suis arrivé au bout, donc au bout de la veine dans laquelle j'étais. Et je ne savais pas quoi faire d'autre, en fait. Alors qu'il y a eu Camille Claudel qui est venue. Et pour moi, c'était un exercice nouveau, Camille Claudel. Donc, c'était tourné avec Juliette Binoche, c'était adapter un personnage existant, donc ça n'avait rien à voir quand même. Tourner ailleurs, partir en Provence, etc. Donc je me suis beaucoup aéré en fait à faire ça, puis ça m'a beaucoup plu. Et quand on a tourné Camille Claudel, on a beaucoup ri. Et ça m'a beaucoup troublé en fait, comment dans une histoire aussi tragique, on pouvait rire autant, quoi. Et on a toujours ri au moment, dans l'interprétation de l'actrice, donc de Juliette notamment. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une forme de défaillance, il y avait une explosion de rire, on riait très fort. Et je pense que c'était inversement proportionnel à la pression et à la tragédie dans laquelle on se trouvait. Et ça m'a troublé. Comment on peut rire alors que c'est... Voilà, ça m'a... Pourquoi on explose ? C'est même des rires nerveux, quoi. On riait comme ça. Voilà. Alors le film s'est passé, très bien. Il y a eu la scène de théâtre aussi de Camille Claudel, où on a beaucoup ri également.
Donc où c'est les autres femmes qui sont dans le même asile.
Voilà, des femmes handicapées qui jouaient
Blanc,
une pièce de Molière, tout à fait.
Et Juliette Binoche, donc Camille Claudel, rit et pleure et en
pleure.
Même temps.
Voilà, donc cette espèce de proximité de l'un et de l'autre, ça a déclenché quelque chose que je lisais dans la littérature mystique, en fait. C'est-à-dire que ça s'appelle la coïncidence des contraires. C'est-à-dire que cette espèce de... Au-delà de la séparation où je ris, où je pleure, les mystiques, c'est je ris et je pleure. Mais il faut l'éprouver dans son corps. Comment peut-on rire et pleurer en même temps ? Pas définitivement, c'est pas possible. Ou je suis heureux, ou je suis malheureux. Voilà. Et en fait, je peux être les deux en même temps. Et pour moi, ça a coïncidé avec mon enfance, avec moi, avec tout ce que j'ai, en fait. C'est-à-dire que je sentais cette coïncidence des contraires, mais j'avais jamais mis le doigt dessus. C'est très compliqué à penser, cette chose-là. C'est un truc... Et c'est en lisant Nicolas de Cuse, qui est un mystique du Moyen-Âge, qui parlait de l'image de Dieu, c'est-à-dire comment les contraires peuvent coexister. Et pour expliquer ça à des moines, il avait écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Le tableau ou la vision de Dieu ». C'est un tableau qui est un autoportrait de Van der Weyden, le peintre, pas le commandant. Et il a donné cet autoportrait du peintre pour expliquer ce que c'était la coïncidence des contraires. En fait, c'est un visage qui vous regarde. Il vous dit, si vous vous déplacez de droite ou de gauche, le regard va vous suivre. Donc ça bouge. Pourtant, l'image ne bouge pas. Donc comment quelque chose qui ne bouge pas peut bouger ? Donc il explique la coïncidence des contraires. Donc cette idée-là, si vous voulez... Parce que j'ai toujours, mon métier, j'ai toujours lu de la philosophie, de la métaphysique, plutôt du lourd, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait la possibilité, justement, de trouver une incarnation de cette mystique dans la coïncidence des contraires. Freddy, c'était la coïncidence des contraires. Mais je ne le savais pas. Pourquoi je suis fasciné par Freddy ?
Dans la vie de Jésus.
Dans la vie de Jésus. Cette coïncidence du bien et du mal. Donc j'ai trouvé comme un équipement intellectuel que j'ai maintenant. Donc je peux affronter des sujets comme ça. J'ai pas de problème. Je peux faire coïncider le rire et les larmes. Parce que je pense qu'il y a dans notre âme une galerie qui correspond. On peut passer de l'un à l'autre, en fait.
Et vous dites que vous ressentiez cette contradiction depuis l'enfance.
Oui, parce que quand j'allais dans ma cave, j'ai toujours cherché des galeries, j'ai toujours cherché des correspondances.
Les souterrains,
oui. J'étais aussi un sale gosse, donc j'étais pas forcément gentil. Donc j'étais gentil aussi, mais voilà, j'ai pu être méchant aussi. Donc cette espèce de
méchant, comment, avec votre parents,
mais
avec vos,
mais non,
vos amis.
Méchant en disant des choses méchantes, blessantes, en vexant, mais des choses sans importance. Et j'ai jamais rien commis de rien de grave. Mais quand même, comme un enfant, quoi. Donc ou d'écraser des animaux. Enfin, j'en sais rien, moi, écraser. Voilà, mais une véritable enfance, c'est-à-dire banal, quoi. Ou dans les personnages que je rencontrais, justement, ou David De Waal, voilà, ces types-là qui sont à la fois violents, voleurs, menteurs.
Et en même temps qui dégagent une grande douceur.
Et voilà, et qui ont le contraire, voilà. Ou cet élève que j'avais eu qui était à la fois sympathique, mais qui en même temps avait quelques griffes, voilà. Donc, qu'on ait des crocs,
crédit, oui.
Voilà, qu'on ait des crocs et qu'on ait une grande douceur. J'ai vu qu'il y avait des textes de ça. C'est-à-dire qu'il n'en est pas perdu à le constater en disant, oh là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non. La mystique, c'est ça. C'est justement cette espèce d'envolée spirituelle dans laquelle vous pouvez embrasser la contradiction. Donc, le fait de faire des films tragicomiques, ça a été embrasser la contradiction de nous-mêmes. Et je me suis penché vers mes films anciens et j'ai vu que cette contradiction, je l'avais faite sans m'en rendre compte. Moi, je me souviens très bien que je cherchais le comique déjà en faisant l'Humanité, mais je ne trouvais pas. Comment je peux trouver du comique? Et en fait, j'ai trouvé mon comique dans mon tragique, c'est-à-dire j'ai rien changé. J'ai pris les mêmes paysages, les mêmes acteurs, sauf que j'ai fait trembler les acteurs autrement. C'est-à-dire que c'est la vibration que j'ai donnée au jeu de l'acteur qui l'a fait tomber dans un autre registre. Donc il est passé de l'autre côté, et puis de l'autre côté, il est revenu. Ce que Juliette Binoche avait fait, enfin ce que Camille Claudel a fait, pardon. En fait, Camille Claudel le fait, c'est-à-dire dans le génie et la grâce de cette femme, il y a toute la misère qui est là. Donc tout était là. Donc fallait-il que je passe par Camille Claudel? Sûrement. Et ensuite, donc Petit Quinquin, ça a été... d'abord, c'était une opportunité, parce qu'on dit, tiens, on te propose de faire un truc. Alors, j'avais
rien
demandé.
C'est Arte qui vous l'a proposé.
Voilà, carte blanche. J'ai dit, bah, allons-y, en faisant une comédie, essayons. Donc j'ai essayé. Mais j'ai essayé dans le même terrain sur lequel... J'ai rien inventé, en fait. Sauf que j'ai fait un casting volontairement.
Bases.
Oui, non, parce que j'ai quand même changé mes petits repères. C'est-à-dire j'ai été assez extravagant dans le casting. Parce que quand j'ai remis mon scénario de Petit Quinquin à Arte, et que je disais c'est une comédie, ils m'ont regardé en disant, mais c'est pas drôle, son truc. Ça... Puis comment lui peut faire une comédie, c'est pas possible. Donc on me croyait pas, en disant, mais lui, c'est le tragique pur, il est dans l'encre du sombre et du crépuscule, comment peut-il faire quelque chose de drôle? Si vous regardez le scénario de Petit Quinquin, c'est pas drôle. Hein.
Mais votre comique, il passe aussi par les corps.
Il est passé par l'acteur. C'est-à-dire cette espèce... Mais quand je vois Carpentier, et quand je vois le héros de l'humanité, quand je vois comment il conduit sa voiture, quand je vois comment Carpentier conduit sa voiture, c'est encore pire, si j'ose dire, mais il y avait déjà... une disjonction que j'avais trouvée dans le fait de ne pas savoir conduire. De Winter, il ne sait pas conduire. Il conduit comme un pied. Mais donc ça commençait à déborder. Sauf que ça n'a pas débordé. C'est Carpentier qui fait déborder. Mais dans la vie de Jésus, il y a une chute de mobilette. Il tombe déjà. Donc la chute, je l'avais déjà, en fait. Mais je ne l'avais pas portée, je ne lui avais pas donné cette dimension-là. Pour ça qu'en fait, rien n'a changé.
Mais vous avez juste osé. Parce que vous dites que...
Non, mais j'étais préparé, j'avais l'équipement intellectuel, en fait, Saint Thomas d'Aquin, j'avais tous ces gens-là qui avaient quand même pensé à la question de la coïncidence des contraires, et qui disaient, faut y aller, quoi, donc on peut y aller, c'est-à-dire, on peut faire coïncider, voilà, le grotesque et le sublime. Après, j'ai lu Victor Hugo, et puis Victor Hugo, c'est ce qu'il fait. Quand il parle de la ligature de l'un et de l'autre, de la nécessité de rapprocher ce qui est éloigné. Donc en philosophie, on parle de ça, d'Héraclite, voilà, tout, les mouvements contraires, la contradiction, tout ça, c'est quand même les grands matériaux de la pensée. Alors, sauf que la pensée les divise, on sépare, voilà, lui à droite, l'autre à gauche. Il n'y a pas de possibilité, C'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. C'est Aristote. Et Aristote interdit, on ne peut pas être et ne pas être. C'est pas possible. Eh bien, moi, j'ai trouvé des voies intellectuelles qui disent que oui, on peut. On peut être et ne pas être. On peut rire et pleurer.
C'est de cette libération dont vous parlez, oui. Quand vous dites que petit quelqu'un vous a libéré.
Ah oui. Mais pour être libéré, il faut être capable de le faire. Il faut être capable d'envoyer un acteur comme ça sur deux roues. il faut l'encaisser.
Sans cascadeur.
Oui, non, mais il faut tenir le discours. C'est-à-dire que c'est pas tout de le faire, parce que sinon, c'est une gaudriole, quoi. Voilà. Et puis ça tient pas longtemps. Donc le fait de partir comme ça à la fois sur les chapeaux de roue et sur les bords, j'ai des lectures qui me permettent de le faire. C'est-à-dire que je suis pas provocateur, c'est pas la provocation, c'est pas un truc comme ça pour provoquer, c'est pas du tout. Je pense qu'il y a une espèce de c'est fructueux, c'est-à-dire que intellectuellement, enfin c'est ce que disent les mystiques, il y a vraiment quelque chose de fructueux à tenter le diable. Voilà.
Il y a l'idée chez vous. Enfin, vous dites j'ai eu beaucoup de lectures. Enfin, on a l'impression que vous vous sentiez équipé pour vous lancer
voilà.
dans ce comique. Mais il y a aussi cette idée chez vous, je pense, qu'il faut aussi se délester et abandonner ce qu'on savait déjà et aller vers le plus simple.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il vous a fallu abandonner, par exemple, pour aller vers Petit Quinquin, vers Maloute, vers Coin-Coin? Qu'est-ce qu'il vous a fallu
Mais abandonner ce qui est cérébral, ce qui est intellectuel, ce qui est réfléchi, aller vers la simplicité, voilà, que la simplicité, elle est au-delà de la complexité des choses, en fait. Elle est pas d'abord, on commence pas par être simple pour devenir complexe, c'est le contraire. Donc il faut que c'est le travail qui libère, en fait. Plus vous travaillez, plus vous accédez à des formes simples. C'est-à-dire, j'arrive à accéder à des formes élémentaires de cinématographiquement par le travail, en fait. Et il faut que je fasse tout ce chemin-là pour choisir un tout petit carrefour, mais qui a l'air de rien, qui ressemble à rien, et de dire que la scène est là. Vous passez votre temps à décider. Tous les techniciens viennent vous voir, la costumière, elle vous dit, alors, il est bleu, il est rouge, son costume. Vous devez décider tout le temps. Donc il faut que vous soyez prêt à prendre toutes ces décisions. Quand la petite Jeanne vient devant vous et qu'elle va jouer, ben, il faut être capable de lui donner le « là », c'est-à-dire elle attend une explication. Comment je dois dire ça? Comment je dois aller au bûcher? Il faut lui parler. Je dois lui parler. Mais il faut que je sois prêt. Mais il faut pas que je sois inconscient en disant, mais je vais te mettre sur le bûcher comme. Non, non, il faut que je sois prêt à répondre.
De même, il fallait que vous soyez sûr de votre puissance comique.
Ah, bien sûr. Bah, déjà, j'ai vérifié sur place. C'est-à-dire, je ris déjà. Donc, je vois. Le comique, c'est plus facile parce que c'est immédiat. C'est-à-dire que vous voyez très bien si on rit ou si on rit pas. Le tragique, si, il y a quand même l'émotion. C'est-à-dire, de prendre la petite, par exemple, c'est une intuition que j'ai. Mais je l'ai vérifiée tous les jours. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche et que je dis action, il y a une espèce d'évidence. Même s'il y avait une espèce de, chez les autres acteurs qui jouaient les jurés, par exemple, une espèce de méfiance. C'est quoi cette histoire? Mais au bout de deux jours, ils étaient convaincus, quoi. C'est évident. Mais il faut sûrement de l'audace, mais il faut une intuition. C'est-à-dire, il faut une espèce de pressentiment que, voilà. Mais en même temps, un jour, je peux me tromper. Hein, je suis prêt aussi. Je prends des risques, en fait. Je veux prendre des risques pour mon enthousiasme. Sinon, ça m'enthousiasme pas du tout, quoi.
Est-ce que vous avez pu souffrir de cette image de cinéaste sinistre dont vous parliez il y a quelques minutes?
Oui, un peu. Non, mais je me reconnaissais jamais. Je lisais des choses en disant, mais ce type, il doit être d'une tristesse, d'une noirceur, etc. Oui, il y a quelque chose aussi qui correspondait. Puis ça correspond pas à ce que je pense.
Et est-ce que vous êtes?
Non, mais je crois au pur tragique. Je crois au tragique. J'adore ça, quoi. Mais il y a un équilibre, en fait. Donc il y a. Pour moi, le tragi-comique, ça a été une révélation, c'est-à-dire une espèce d'épanouissement, parce que je crois aux deux, ni. Voilà, donc j'ai envie du tragique, j'adore le tragique, j'adore le dramatique, vraiment, quoi. Mais je pense que dans la vie, il y a les deux. C'est-à-dire que. Mais au cinéma, on peut très bien. Je referai des films tragiques, très tragiques.
Dans ces derniers films que vous avez réalisés, que ce soit Petit Quinquin, Maloute, Coin Coin et Les Inhumains, on y voit donc une forme de libération, mais aussi peut-être un retour vers l'enfance. Dans Maloute, il y a ces deux inspecteurs qui ont ces allures et presque ces costumes aussi de Laurel et Hardy, dont vous nous disiez de ces soirs de la semaine qu'ils étaient les premiers personnages cinématographiques de votre enfance, ceux que vous avez vus dans vos premiers films. Il y a Jean-Luc Vincent qui joue l'oncle dans Maloute et qui arrive sur son grand bi. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à mon oncle de Tati et à cette maladresse-là, à cette petite maladresse-là, sans parler des personnages d'enfants. Est-ce qu'il vous fallait, pour vous libérer et aller dans ce registre, revenir à l'enfance?
Mais j'ai pas besoin de me libérer. Pourquoi voulez-vous que je me libère? Non, mais
c'est vous qui l'avez dit.
Ah bon? Non, mais il n'y a pas de nostalgie et pas d'idée d'apothéose finale. Je ne crois pas à ça du tout. Et en lisant Peggy, je me suis totalement débarrassé de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que le présent, il faut s'héroïser dans le présent. Et pour ça, je pense que le cinéma est extraordinaire, parce que le cinéma, c'est une héroïsation du présent.
Mais donc, ce que moi, par exemple, j'ai pu voir de Laurel et Hardy, de mon oncle, de Tati, c'est pas des choses que vous êtes allé...
Si, sûrement. Bien sûr que si. Non, mais c'est forcément des... C'est mon patrimoine, c'est-à-dire quand on fait le fil, il y a forcément des cinéastes qui ont beaucoup compté, des pionniers, et j'ai appris le cinéma en regardant les autres, moi, forcément. Mon oncle, j'ai dû le voir 30 fois, il passait que ça à Lille 3 quand je faisais philo, donc je l'ai vu énormément de fois, et c'est vraiment... Tati, c'est vraiment quelqu'un de très très important, et il y a évidemment des parentés dans le son, par exemple, dans l'usage du son avec lui, c'est évident. Oui. Et il y a dans le comique quelque chose qui est assez... Parce que le comique, c'est quand même du ratage. Charlie Chaplin, Tati, c'est quand même ou Jerry Lewis, ou Buster Keaton, c'est des personnages qui sont en permanence en train d'essayer, qui n'arrivent pas, quoi. C'est quand même l'échec. Mais c'est un échec qui est comique. Ce qui est important, c'est que c'est comique, c'est drôle. Et
d'où ces personnages de policiers un peu nuls, en fait.
Ils sont nuls, mais ils sont le prince.
Mais on rit.
Et le rire, c'est quand même la vie, c'est-à-dire la jubilation que ça provoque. C'est une façon de se contenter de la vie, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très très joyeux. Enfin, mais en même temps, je suis parfaitement conscient des douleurs, des malheurs qui nous traversent. Je ne suis pas non plus idiot, quoi. Donc, mais ça ne retire jamais mon optimisme. Hein. Mon optimisme est là, quoi.
Vous avez dit, au moment de la sortie de la saison 2 de Petit Quinquin, donc Coin Coin et Les Inhumains, que vous n'arrivez plus aujourd'hui à tourner une scène psychologique normale. Vous avez toujours envie de glisser une peau de banane quelque part.
C'est vrai, oui.
Est-ce que, du coup, ça compromet
peut-être
vos futures tentatives de films dramatiques
ou tragiques? Bah, même quand j'ai fait Jeanne, je pensais que j'allais être sérieux et j'ai vu que j'ai pas réussi tout le temps. Oui, je pense que j'ai...
Vous avez ouvert une porte.
Comment ?
Vous avez ouvert une porte chez vous.
J'espère que je vais pouvoir mettre un homme et une femme l'un en face de l'autre et commencer quelque chose, mais j'ai peur que je n'y arrive pas. C'est-à-dire, j'ai toujours envie de m'échapper de la déconvenance, en fait. Voilà, du préconçu, de l'attendu. Il y a quelque chose qui m'ennuie très vite. Mais tout de suite, je vais mettre une petite graine pour que, dans un sens, pour que ça fructifie, mais pour que ça coince aussi, éventuellement, pour empêcher que les choses se passent comme prévu. Mais bon, on va voir.
Est-ce que le fait de vouloir absolument glisser une peau de banane à chaque fois quelque part, comme vous le dites, est-ce que ça vous rend plus heureux? Est-ce que ce cinéma-là vous rend plus heureux?
Ah oui, ça me rend plus heureux, oui. Mais ça, non, je peux mettre des fleurs aussi, je ne suis pas obligé de mettre des bananes. Vous voyez, je veux dire, je ne mets pas que des peaux de banane. C'est-à-dire que de temps en temps, quand la fleur arrive, je vais la mettre. Et je suis content de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire des moments d'émotion absolue, quoi, de moments de... Mais il y avait ça dans Jeanne, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des moments d'une grande tristesse, enfin, par rapport à l'histoire, et des moments aussi où... Moi, je voyais bien que les acteurs qui jouaient ces juges avaient du mal à faire ce qu'ils... Voilà, il me dit, attends, vraiment, faire ça à 10 ans, quoi. Moi, je sais pas, fais quelque chose. Je te laisse ta liberté. J'essaie de leur donner une liberté pour sauver cochon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayer de laisser aussi à l'acteur une possibilité de ne pas non plus enfoncer le personnage cochon que l'on connaît et de le remettre à son clou, et de lui dire « Allez-y, sauvez-le. » En même temps, le texte, c'est le texte. Hein. Mais vous avez l'interprétation. Ah bah, je vais essayer. Bon, rien que ça, voilà, de pouvoir donner à l'interprétation de cochon la possibilité justement de ne pas enfoncer toujours le même clou et de sauver des personnages. C'est bien, on est là pour sauver des personnages.
De faire un autre procès.
Il ne peut pas faire un autre procès. Il a pas... Non, je l'empêche, il ne peut pas sortir de son gond, mais il a une petite marge de... il a une petite marge de manœuvre, toujours. Vous pouvez toujours... C'est ça, un acteur, il a... au final, il a une liberté. Il a... Alors, il y a un metteur en scène, il y a un texte, il y a un plan... Mais entre action et coupé, il a une liberté. Et je pense que moi, j'ai des acteurs qui ont donné de la légèreté, de la souplesse à des personnages maléfiques, par exemple.
Dans cette liberté dont vous parlez, il y a cette donnée dans Maloute qui est assez nouvelle, qui est un rapport au corps nouveau, à savoir le cannibalisme. C'est quelque chose qui déjà nous fait sortir du réel, mais en plus dit, j'ai l'impression, quelque chose d'autre de votre rapport au corps, c'est-à-dire un rapport de désir et aussi un rapport de... la matérialisation d'une haine sociale, à savoir bouffer du bourgeois. Est-ce que c'est une...
Non,
quelque
bouffer,
chose...
bouffer de l'humain, déjà. Il y a déjà ça dans la nature, c'est-à-dire le Maloute, c'est l'état sauvage. En fait, c'est ça. C'est dans l'état sauvage, il y a déjà des hiérarchies, il y a déjà des ségrégations, il y a déjà des oppositions. Et tout cultivé que l'on soit, je pense qu'on est toujours des bêtes. Je pense qu'il y a... Voilà, il y a la nature humaine... C'est pour ça que moi, ce qui me passionne...
Mais il ne s'attaque pas à n'importe quel corps humain, la famille Bruford. Il mange principalement des bourgeois, quand même.
Ah oui, oui. C'est-à-dire, il passe justement dans la nature, il n'y a pas de barrière. C'est la loi de la jungle. C'est-à-dire, on peut passer, on peut transgresser. Et il faut transgresser. Il faut manger du bourgeois au cinéma pour le supporter dans la vie, peut-être. C'est-à-dire, ça sert à ça. C'est-à-dire que... Il y a des formes de purge, de catharsis qui me paraissent indispensables pour supporter les autres. Bah, il faut bien en faire quelque chose, ou en rire, ou en pleurer. Ou... C'est pour ça que l'art nous aide à supporter nos... Pour ça qu'il y a autant de crimes au cinéma. Tous les films racontent des histoires de... Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ça pour vivre les uns côté des autres. Donc on a besoin de se libérer. Voilà. Je pense que c'est un lieu de libération. Alors, qu'on se mange, qu'on se tue, qu'on se baise, qu'on s'aime, qu'on se déteste, qu'importe. Le cinéma est là pour alimenter la chaîne. C'est-à-dire pour faire tourner et qu'on puisse, quand on sort, bah, se dire bonjour madame, au revoir madame. Et voilà. Et pour faire cette grimace-là toute la journée, il faut qu'on puisse se soulager. Je pense, c'est le sens de la littérature, c'est le sens de l'art, c'est bien. Mais c'est pour ça que la culture, elle est indispensable à la civilisation, bien évidemment.
Au début de notre série d'entretiens, je vous posais des questions sur le rapport que vous entreteniez, enfant, adolescent, au milieu dont vous étiez issu. Et vous me disiez, mais il n'y avait pas de milieu, pas forcément de cloison entre catégories sociales. Et or, au moment de la sortie de La vie de Jésus, en 97, vous avez dit que vous n'aimiez pas votre milieu et que vous vouliez en sortir. Je pense à ça parce que là, on vient justement d'évoquer le fait de bouffer du bourgeois, de s'accorder cet espace de liberté dans le film.
Que je ne dis plus aujourd'hui.
Voilà, mais pourquoi vous avez changé d'avis?
J'ai pas changé. Je pense que quand j'étais enfant, on n'a pas de milieu parce qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Voilà, on est dedans et on ne sait pas très bien qui on est, d'où on vient. La question du milieu, elle vient un peu plus tard. C'est qu'on commence à s'interroger quand on devient adolescent. Donc c'est au moment... Moi, à un moment donné, je me suis posé des questions, je me suis retourné sur mon milieu. Alors j'ai vu, tiens, j'ai un milieu. Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres milieux. Donc c'est pour ça que je me suis interrogé sur mon milieu. Et c'était quand même un milieu assez comment dirais-je, assez traditionnel et qui était assez engoncé. Voilà. Donc je me suis libéré de ça. Donc cette libération, elle a été à la fois, je l'ai faite, je pense, par la philosophie, essentiellement, c'est la philosophie qui m'a donné une forme d'introspection sur mes origines. Mais il fallait bien que je vienne de quelque part. Parce qu'aujourd'hui, je ne le dirai plus.
Et vous l'avez fait par le cinéma aussi, vous diriez ?
Bien sûr. Mais le fait de faire du cinéma, ça m'a aussi fait quitter mon milieu. Le cinéma, c'est un milieu explosif. Les gens sont explosés au cinéma.
C'est-à-dire ?
Vous pouvez pas comme ça, en permanence... Je sais pas, c'est un milieu transgressif. Le milieu du cinéma, tous les gens de cinéma sont des gens qui ont implosé, enfin, de mon point de vue. Ils sont fous, quoi. C'est un milieu de fous. Mais c'est une folie qui est la poésie du milieu. Elle est bonne, hein. C'est pas un jugement que je fais. Ce sont des gens qui ont... Les acteurs, par exemple, c'est des gens que... Ils sont fous. Mais ils sont beaux parce qu'ils sont fous.
Vous êtes souvent tenu à distance du milieu.
Parce que je ne les fréquente pas. C'est pour ça que je ne tourne pas avec eux, c'est que je ne les fréquente pas. Donc les milieux se reproduisent entre eux, en fait. Si vous fréquentez... pourquoi les journalistes et les politiques sont souvent... Ils sont souvent ensemble, c'est pour ça qu'ils ont des histoires ensemble. Ils ont des histoires d'amour ensemble. Des histoires de rupture, des histoires, etc. Moi, j'ai pas... je me suis toujours préservé du milieu du cinéma, heureusement. Sinon, j'imagine que je tournerais avec eux. on serait une famille. Je suis pas de la famille. Donc, et en même temps, je suis capable d'aller les chercher, hein. J'ai été chercher Lucchini, etc. Mais je vais le chercher. C'est-à-dire, je fais, voilà,
Juliette Binoche est allée vous chercher.
Elle est venue. Il y a des actrices qui viennent. Il y a des acteurs qui viennent. Mais je reste sur mon domaine. Je fais bien attention à ça. Mais c'est un milieu que j'aime bien. Faut pas croire que. Mais je fais attention. Je suis pas dans le milieu, vraiment pas. Je suis pas dans ce milieu-là. Mais on se croise.
La berceuse de Petit Quinquin au générique, elle vient d'où dans votre vie ?
Oh bah ça, c'est le Petit Quinquin. Ça vient de où ? C'est là.
Comment ça, c'est là ?
C'est la chanson du Petit Quinquin. Justement, c'est un truc qu'on ne cherche même pas. C'est présent. Non, il n'y a pas forcément d'explication.
Il n'y a pas de correspondance avec des choses que vous avez pu entendre enfant.
Ah j'ai entendu cette berceuse. Vous pensez qu'on m'a bercé avec ça, c'est ça ?
Non, je ne sais pas. En fait, je vous demande.
si, quand j'avais 2 mois, je me souviens très bien que ma mère me chantait ça.
c'était ce que je voulais entendre.
C'est ça que vous voulez entendre. Vous le dites, c'est vrai. Donc, c'est remonté là. Puis donc, du coup, j'ai lâché le morceau.
Merci Bruno Dumont.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Bruno Dumont. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.